Juste, je trouve le film montre bien toute la bienveillance, voilà, l'ambiance qui est à l'intérieur. Moi, je retrouve des choses qu'on retrouve dans le monde socio-éducatif. Par contre, la question qu'on se pose et que je suppose vous poser, c'est la place des pères. Et voilà, est-ce que du coup, en termes d'expérience, d'espace, il y a des choses qui font venir les pères? Parce que là, il semblait pas en avoir, mais il y en a peut-être, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, c'est une question qui nous taraude.
Très bonne question. Effectivement, elle fait partie aussi de mes questions. J'ai envie de dire, moi, j'ai deux expériences radicalement différentes sur deux écoles, sur des espaces parents-enfants comme ça. Celui-là, que vous avez vu à Saint-Priest, effectivement, il n'y a quasiment pas de papas qui viennent. Quand ils viennent une fois, mais pas deux. Parce qu'ils voient 15-20 femmes d'un coup. Et il y a un état de choc. Donc souvent, je vais leur servir un petit café sur une table à côté parce qu'ils sont trop, trop mal à l'aise. J'ai beau essayer de les inviter, de les aider. Je crois qu'il y a un papa, une fois, qui était en arrêt de travail, qui a réussi à tenir 4 mois en venant tous les jeudis matins. Et je voyais que voilà, il y trouvait son compte, sa place, mais c'est très rare en fait. La plupart des papas sont très 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 mal à l'aise du fait du nombre de personnes et que dans les faits, c'est toutes des femmes. Voilà. Et j'ai l'expérience d'un autre espace parent-enfant, voilà, qui était sur Lyon, où pour le coup, on était à la parité. C'est-à-dire qu'il y avait autant d'hommes que de femmes. Et c'était comme ça dès le début. Et je pense effectivement qu'il y avait, sur cette école-là, plus de papas qui ne travaillaient pas ou étaient plus disponibles sur la demi-journée où il y avait l'espace qui était ouvert. Et dans les faits, ils se posaient même pas la question. Ils venaient, ils rentraient, c'est pour les parents. C'est un espace parent-parent, hop. Voilà. Et on se retrouvait dans un groupe où vraiment il y avait le groupe des hommes, le groupe des femmes. Des fois même ils étaient même pas entre guillemets assis côte à côte. Ils étaient vraiment mélangés et ils rentraient dans les débats, ils discutaient. Donc à l'heure actuelle, je me dis à quoi est liée voilà cette différence sur ces deux écoles. Alors une de mes hypothèses c'est effectivement l'activité. C'est-à-dire dans l'école au niveau Saint-Priest, je pense que les papas sont beaucoup plus en activité professionnelle que les mamans. Ce qui n'était pas le cas sur Lyon, c'est une de mes hypothèses. Après, les autres, j'en discute aussi avec les mamans. Hein. Elles me disent non, mais mon mari dit toujours, ça te fait du bien. Moi, je vais voir mes copains ailleurs. Chacun son espace, chacun son truc. Enfin, vous voyez, ce genre d'anecdote qui, parce que moi aussi, ça me questionne bien évidemment, et je leur renvoie la question parce que elle concerne tout le monde cette question. Et très souvent, j'entends des choses comme ça, quoi. Voilà, je peux pas en dire plus, je pense que c'est à travailler au long cours.
Oui, j'ai trouvé intéressante la référence que vous avez fait aux situations où le parent vient pas du tout parce qu'il y a cette impression d'être dénié par l'institution. Et du coup, est-ce qu'il y a des relais qui existent pour que quand on voit qu'on n'arrive pas à faire aboutir le travail en matière de parentalité, on arrive à faire aboutir à un travail vis-à-vis de l'enfant tout seul, du coup, parce qu'on imagine que c'est une situation qui est particulièrement douloureuse pour lui, parce qu'effectivement, il est pris entre deux instances qui s'opposent, qui se regardent en chien de faïence. Et finalement, on a cette première réussite d'avoir réussi à faire venir les parents dans l'institution quand ça marche, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Et c'est un problème qui se pose à l'école, mais qui se pose aussi dans tout un tas d'autres institutions. Je pense, on a une ludothèque, par exemple, dans ma commune. On a toutes les peines du monde pour certaines familles à faire venir les parents. Et du coup, c'est très excluant pour les enfants qui peuvent plus participer à l'activité.
Ouais, tout à fait. Je dirais que ça a été un questionnement des enseignants. Alors là, je parle précisément de Saint-Priest, puisque pendant il y a le temps des matinées, vous avez vu en vidéo, c'est simple à imaginer. Et il y a aussi un temps, 3 fois dans l'année, en moyenne, qu'on appelle de ressourcement, parce qu'on se ressource. Voilà, qui est un temps pour les enseignants, qui est aussi ouvert aux ATSEM. Un temps de réflexion, d'approfondissement, où on part d'exemples concrets, voilà, qui sont vécus, et puis on essaye d'avancer. Et de trouver des pistes de réflexion, des pistes de solutions. Et je me souviens très bien à une période que les enseignants se posaient cette question, comment je fais moi avec l'enfant au niveau de la classe, alors que son parent ne vient pas, que son parent est très fuyant ou est très agressif ou je ne sais quoi, vous voyez ce genre de situation. Et effectivement, comment déjà parler à l'enfant pour déjà lui dire, écoute, à la maison c'est comme à la maison, puis à l'école c'est comme à l'école. Pour l'aider justement à ne pas se retrouver dans cette contrainte hein, de double alliance, de se dire non, faut que je sois du côté de mes parents, donc je peux pas faire un sourire à la maîtresse ou je peux pas donner la main au copain parce que à la maison on me dit qu'il faut pas que je touche un petit garçon, etc. Et ça a été toute une réflexion sur comment expliquer ça à l'enfant, quelque part. Comment mettre du sens pour l'enfant. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Mais effectivement, je pense que les enfants, quand on prend le temps de leur expliquer, parce qu'on voit quand même que c'est voilà quelque chose qui les travaille, même s'ils le verbalisent pas forcément, leur dire bon ben voilà c'est différent, mais c'est pas parce que tes parents ne viennent pas que c'est des mauvais parents. C'est juste que c'est difficile entre eux et nous, voilà, en tant qu'adulte, mais c'est pas ton affaire entre guillemets, c'est l'affaire des adultes. Un petit peu ne pas mettre non plus l'enfant dans une position où il va devoir régler des conflits d'adultes, je vous laisse imaginer, ce qui est importable pour un enfant, quel que soit son âge, je pense. Voilà, c'est une histoire d'adulte, et puis voilà, toi tu fais de ton mieux à l'école, et puis tu gardes ta place d'enfant dans ta famille, et tu fais de ton mieux au niveau de ta famille. Et je pense que ça soulage, enfin les retours au niveau des enseignants suite à ces réflexions avaient dit quand même que les enfants étaient soulagés, parce qu'il y a vraiment des enfants qui sont angoissés, complètement stressés de ça. Et voilà, qui sont dans un conflit de loyauté qui est très dur à vivre en fait. Donc je pense qu'il faut les libérer de ça. C'est un problème d'adulte. C'est pas leur problème à eux.
En fait, je voudrais juste parler d'un dispositif que tout le monde doit connaître, c'est ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration, qui est un dispositif national qui fonctionne depuis 2008 et qui depuis cette année s'appelle ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Je trouve que c'est assez notable comme changement de terminologie. En fait, au niveau du département du Bas-Rhin, nous avons commencé en 2008 avec 9 sites. Donc, pour ceux qui connaissent pas, enfin, ou alors tout le monde connaît, c'est en fait des cours de français langue étrangère ou français langue intégration proposés gratuitement à tous les parents issus de l'immigration pendant le temps scolaire et dans les écoles, collèges, écoles maternelles ou élémentaires. Deuxième volet, c'est meilleure connaissance de l'institution scolaire, justement, et des valeurs de la République. Et le troisième point, c'est accompagnement au niveau de la parentalité, aider les parents à revêtir leur costume de parents d'élèves et les aider. Donc ce dispositif, dans le département du Bas-Rhin, nous en avions 9 à l'ouverture et on en est à 17. Avec 30% joliment cette année, l'année dernière déjà 20% de réduction au niveau enveloppe. Mais c'est pour dire que de façon volontariste, des enseignants, des directeurs d'école, IEN, chefs d'établissement, CPE, coordonnateurs d'éducation prioritaire interviennent sur leur temps de travail pour les deux volets, les deux derniers volets dont je vous parlais. Et on a pu noter qu'il y a des lieux comme ça, cafés thématiques, où des parents n'osaient pas venir pour des problèmes linguistiques. Et qui, en fait, petit à petit, on s'aperçoit qu'ils osent appeler pour dire que l'enfant est malade. Ils osent venir à l'école pour avoir des nouvelles de leur enfant. Et ils osent venir au café thématique, même que pour écouter au début. Voilà, par rapport au papa, la question des papas, je voudrais dire qu'on a démarré avec un papa sur 100. On va progresser, on est à 300 personnes qui en profitent, on est à 3 papas. En revanche, de façon anecdotique, mais pas très facile à raconter quand même, effectivement, il y a un endroit où il y avait... que des mamans depuis quelques années, et puis un jour un papa s'est présenté. La séance suivante, les mamans n'avaient plus le droit d'y aller parce que leur époux leur refusait l'entrée de... nous a valu un bon trimestre de travail avec assistante sociale, psychologue, etc. pour réexpliquer le positionnement et que... Voilà, donc... Mais c'est un dispositif qui est intéressant et qui a été une occasion et une passerelle pour aller vers vos lieux passerelles qui peuvent se dénommer différemment. Mais...
Oui, tout à fait.
Et en fait, on a, et pour la petite histoire, on a pas mal de mamans qui accèdent à la nationalité française puisqu'il leur faut actuellement le C1 en oral et à l'écrit pour accéder à la nationalité française. Et puis des mamans qui accèdent au DILF, au DELF. Et c'est une belle avancée pour elles et puis pour nous aussi.
Merci.
Juste une petite remarque par rapport au dispositif lieu d'accueil parents, cours de français langue étrangère, etc. Enfin, le dispositif en lui-même ne porte pas sa réussite. Je pense que c'est important de se le dire. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de conditions qui font qu'un dispositif peut fonctionner ou pas et avoir des effets pervers ou pas, et que c'est jamais gagné d'avance, et que c'est bien en le remettant en chantier et en discussion et en débat dans les groupes locaux de comme il peut y avoir sur Saint-Priest, pour y avoir participé au début, que ces dispositifs peuvent à la fois perdurer, s'améliorer, trouver une autre voie quand on voit qu'on est sur une quelque chose qui a plutôt des effets pervers. Enfin voilà. Et je pense que c'est important de se dire ça.
Par rapport à ce que tu viens de dire, justement, moi j'ai une question, parce que tu dis que le dispositif n'est pas une réussite parce qu'il porte ce nom. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec le communautarisme et puis la place des hommes entre guillemets, le dispositif, et moi je vous pose aussi la question du coup, est-ce que vous avez des hommes qui pilotent, qui sont animateurs de ces temps-là, de ces lieux-là, est-ce qu'il y a eu une étude qui a été menée, parce que est-ce que si des hommes sont là, est-ce que les dames vont vouloir venir, ou est-ce que ça va être bloquant, comme vous l'avez dit? Et si c'est le cas, effectivement, ça m'interroge quant au dispositif, parce que moi, ce qui me choque particulièrement, c'est... alors, vous l'avez dit sous forme de boutade, et je trouve ça, c'est normal, et c'est une vraie réalité, c'est le papa qui dit, moi, j'ai vécu avec mes copains, et ça fait du bien, et toi, va donc vivre avec tes amis. Mais du coup, on est vraiment dans une scission claire et nette de l'homme et de la femme, et qui est tout le contraire de la vie en société. Tout le contraire de la vie à l'école et tout le contraire de ce que l'on souhaite défendre dans le cadre d'une école républicaine, laïque, tout ce qu'on peut y mettre derrière. Donc effectivement, c'est vrai que ce dispositif, je trouve très bien. En plus, on le démarre, nous, sur Dijon. Il y a plein de choses qui m'intéressent, donc je pense qu'on vous contactera derrière. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement... cette vraie place, parce que on l'a entendu, on le sait, nous à la piscine, on a des demandes, des créneaux spécifiques dames, femmes. S'il y a des hommes dans la piscine, les femmes peuvent pas y aller. Donc du coup, je me dis que s'il y a un temps qui est là et qui est nécessaire, parce que je vois dans le film, on voit vraiment, apparemment, c'est vraiment du bonheur pour les personnes d'être présentes et puis d'échanger, ça leur apporte énormément de choses. Par contre, je me dis que est-ce que derrière, on va pas encore rajouter une couche à cette distance qu'il existe entre l'homme et la femme dans certains quartiers, voire dans la société aujourd'hui, que ça s'étend de plus en plus. C'est une question.
Hein. Oui, votre intervention est très très pertinente. J'ai envie de dire que on touche vraiment à des valeurs très très fortes par rapport à ces personnes, à ces familles, et que moi, je les ai vues évoluer, même si pendant les 7 ans, il y avait 99% de femmes, on est bien d'accord. Mais malgré tout, ces femmes ont évolué aussi par rapport à cette question-là. C'est-à-dire, si des hommes venaient, ça leur poserait pas de problème. Alors que peut-être, il y a 5 ans, 6 ans, un homme serait venu, elle serait toute repartie. Ça, je veux bien le croire. À l'heure actuelle, ça leur pose aucun problème. Donc, ils disent, oh bah, c'est dommage, c'est même elle qui se lève, qui lui emmène un verre, un nouveau papa qui passe, elles vont être autant accueillantes que moi d'ailleurs. Et ça fonctionne, et ça leur pose aucun problème. D'ailleurs, on a parlé aussi très régulièrement avec elles, avec l'ABC de l'égalité et tout ce qui s'ensuit, je vous laisse imaginer. J'ai vécu un moment très très tonique dans cet espace par rapport à cette période, hein. Voilà, où c'était un peu à feu et à sang dans ces quartiers. Voilà, il a fallu vraiment rentrer dans les détails et dire, voilà, est-ce que on parle de un garçon, une fille, un homme, une femme, ça a même valeur, etc., etc. Ou est-ce que on est en train de parler, voilà, de ce qui est politique, des théories du genre, voilà, parce qu'il y a des amalgames, mais alors énormes. Et je vous laisse imaginer à quel point ils peuvent être dans ces quartiers, être épidermiques par rapport à ça. Ils se rendent même pas compte que eux-mêmes font l'amalgame. Donc moi, j'ai passé des jeudis matins entiers à travailler là-dessus. Et eux, ils me disaient après janvier, après les événements, faut pas faire d'amalgame. Je dis, voyez, chacun son tour. On va travailler les amalgames. Parce que voilà, c'est souvent ça qui se passe. Et quand on est juste, j'ai envie de dire, en train de prendre les choses telles qu'elles sont, voilà, est-ce que le petit garçon dans le lieu passerelle, il peut jouer avec la poupée, est-ce que votre mari, il prend jamais la poussette, est-ce qu'il fait jamais ci, est-ce qu'il fait jamais ça, et tout d'un coup, ah oui. Et puis voilà, elles en parlent ensemble, c'est toujours un effet de groupe, c'est ça qui est intéressant. Et j'ai envie de dire, au fil des mois, au fil des années, leur regard sur cette question-là, a drôlement évolué. Alors, il n'a pas évolué jusqu'au point où on a des hommes dans le groupe, en tout cas sur Saint-Priest, je vous parle pour le coup. Mais malgré tout, il y a des choses qui avancent. Après, quel impact ça aurait si l'animateur était un homme? J'en sais rien. Ça, je ne peux pas répondre. Je peux que essayer d'imaginer, de projeter, mais je ne peux pas répondre.
Je peux juste quand même compléter quelque chose. il me semble qu'il faut qu'on se méfie aussi d'une sorte d'attribution de différents hommes-femmes dans ces quartiers populaires et dans ces milieux issus de l'immigration. Alors que, si on prend le pendant sur les professionnels de l'école maternelle, ça pose question à personne que toutes les professionnels de l'école soient des femmes.
Tout à fait, comme dans les crèches d'ailleurs.
Et on peut aller regarder à l'opposé dans les conseils d'administration, ou qui est dans l'éducation nationale directeur ou chef d'établissement. Mais il faut qu'on se méfie quand même de cette attribution de hiérarchie homme-femme au quartier populaire, alors que c'est une problématique qui traverse l'ensemble de la société. Je pense que voilà.
Tu m'as ouvert la voie, je voulais pas vous répondre directement, mais il m'a ouvert la voie. Enfin bon, je vais faire la vieille, mais après 68, il y avait quand même l'idée que les femmes ne prenaient pas la parole et qu'il y a eu quand même institutionnalisé dans les mouvements féministes des groupes de femmes où les femmes où il n'y avait pas d'hommes. Hein. Bon. Et c'était plutôt des milieux très cultivés, parisiens, etc. Donc moi, je crois à ce que vous dites, c'est ce que ça veut dire. Je crois qu'effectivement, il faut passer outre ça, ce qui peut nous sembler la mixité et la parité, d'une certaine manière, c'est pas forcément une valeur partagée par tout le monde. La prise de parole dans un groupe. Si vous regardez un groupe et que vous voyez des hommes et des femmes dans un groupe, regardez bien qui prend la parole, comment les distribuer cette parole, etc. Entre les sexes, c'est pas égalitaire. Hein. C'est pas égalitaire socialement non plus, mais c'est pas égalitaire aussi entre les hommes et les femmes. Donc, je pense que là, il y a quelque chose effectivement à travailler. Alors, ça peut commencer effectivement sur des groupes de femmes qui sont entre elles, et puis petit à petit, effectivement, les faire réfléchir sur l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants, l'éducation qu'elles donnent à leurs garçons, le rapport qu'elles peuvent avoir. Non, mais voilà. Et je crois qu'il faut pas avoir une position de principe. En disant finalement des groupes mixtes, il faut absolument des groupes mixtes. Je pense qu'on peut travailler la mixité avec des groupes qui ne sont pas mixtes, justement. Mmh. C'est une question en débat. Enfin, voilà, je pense que la distribution de la parole entre les hommes et les femmes, elle n'est pas égalitaire. Hein. Et tu as raison de dire qu'effectivement, quand on regarde dans la hiérarchie, même dans la hiérarchie de l'éducation nationale, hein, nombre de rectrices, nombre de DASEN. Et encore, il y a eu un effort, hein, mais bon, on est loin de la parité. Donc, je crois que voilà, il faut aussi remettre ça dans une société française, avec son histoire aussi, et que effectivement, ne pas attribuer ça systématiquement aux femmes et aux hommes issus des immigrations.
En tant que femme, donc ça fait quand même 5 minutes que nous parlons à 3. Monsieur est intervenu. Bon, donc. Voilà, je suis vraiment d'accord avec vous. En fait, on peut parler mixité dans un groupe de femmes. Je voudrais juste répondre à votre question. En fait, nous avons trois sites sur les 17 qui fonctionnent avec des hommes, des hommes formateurs. Et donc, en fait, les femmes restent là quand même. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je ne cherche pas l'égalité, en fait, ni au niveau de la prise de la parole, ni de la façon. Ça serait plutôt l'équité. Voilà. Ouais. Et en fait, donnons la parole à ceux qui souhaitent la prendre, et puis voilà, mais pas forcément de façon égalitaire.
La prise de parole dans un groupe, elle n'est pas égalitaire socialement.
Tout à fait.
Et ça, il faut en être conscient quand on anime un groupe. Vous savez bien qu'il y a des gens qui ne prennent là jamais la parole, non pas parce qu'ils n'ont pas des choses à dire, mais parce qu'ils ne s'autorisent pas à les dire. Mmh. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut, il faut le savoir. Et les femmes ne s'autorisent pas un certain nombre de choses que des hommes s'autorisent, parce que dans l'éducation, Donc ça, je pense que dans l'ABCD de l'égalité, pour laquelle j'ai un peu participé au niveau de la DGESCO, c'est aussi des choses, les empêchements sociaux qu'on a en tant que fille, il faut en être conscient, comme les empêchements que les garçons peuvent avoir aussi, Donc c'est aussi dans l'éducation, et ça il faut. L'idée c'est pas de donner la parole à tout le monde, mais c'est l'idée de savoir qu'il y a des gens qui ne prennent pas la parole parce qu'ils s'autorisent pas à la prendre.
Par contre, elles sont présentes, elles sont là, et après ça reste. Alors je vais peut-être un peu dur, je suis désolé, mais c'est un choix de personne à un moment donné de pas vouloir se positionner pour prendre la parole ou pour la prendre. Dans ce lieu, j'ai bien dit, j'ai fait exprès, je l'ai un peu poussé par rapport à ce que vous veniez de dire aussi. Par contre, là dans ce lieu, comme il n'y a pas de présence, il n'y a pas forcément de possibilité de discuter d'équité. C'est ça, c'est juste par rapport à ça. Je ne suis pas convaincu qu'il faut passer par d'autres. Je questionne. Et ma question, c'était de me dire, est-ce qu'à un moment ou un autre, un lieu comme celui-ci dans une école, c'était réellement sa place si à un moment donné on excluait la place la parité, la représentation d'une société qui est homme-femme, après, voilà, sans débattre, sans rien d'autre.
Je pense qu'elle n'est pas exclue dans le sens où c'est un sujet qu'on aborde régulièrement dans cet espace.
Et juste, c'est, moi, dans mon association, on met en place aussi des ateliers Ouvrir l'école aux parents. Et il y en a un qui est animé par un homme. Et du coup, c'est plus mixte même, en fait, parce que du coup, il y a plus d'hommes qui viennent. Il y a également des femmes. C'est pas non plus, il y a une proportion plus importante de femmes. Mais du coup, il y a quelques hommes qui viennent. Donc, il y a moins d'animateurs d'ateliers Ouvrir l'école aux parents hommes. Mais en tout cas, quand il y en a, ça a tendance à favoriser, en tout cas, à l'échelle locale, c'est ce qu'on a constaté, que ça favorise la mixité.
Ben moi, pour témoigner aussi sur l'école aux parents, donc je viens de la Seine-Saint-Denis, donc vous imaginez, il y a 27 ateliers Ouvrir l'école aux parents, et donc il y a des parents qui viennent, et pour en avoir animé un, je peux vous assurer qu'il y avait des femmes entièrement voilées qui venaient voilà, les yeux, et il y avait deux papas qui étaient intéressés. Donc il y a quand même des hommes qui viennent, hein. C'est pas bon, bien entendu, je pense que c'est des ateliers où il y a aussi l'enjeu de la langue, donc il y a pas mal de pères qui sont intéressés. Hein, maintenant, pour en revenir à la parité, j'ai entendu il n'y a pas longtemps la chercheuse Sylvie Héral de Bordeaux qui parlait de la fabrique des garçons, et là c'est extraordinaire, donc allez-y.
C'était suite à un diagnostic en fait qui s'était fait sur la commune de Saint-Priest. Voilà,
si je peux en parler, ce que j'étais comme WaterZep au moment où ça s'est monté, ouais. C'est vraiment le fruit d'un travail autour d'un groupe animé par l'équipe de développement social urbain sur la commune, avec les directeurs d'école, avec l'IEN, les conseillers pédagogiques, le coordonnateur ZEP et la coordinatrice petite enfance de la ville. Donc c'est vraiment un diagnostic au départ sur cet éloignement des familles sur cette école qui ne venait quasiment jamais à l'école à la rencontre des enseignants, etc. Et voilà. Et pour le coup, moi, il y a eu transformation effectivement de ces mamans qu'on voit dans le film. Mais moi, j'ai été témoin de la transformation aussi du regard des enseignants sur les parents. Et ça, pour moi, c'est ça aussi une des plus belles réussites de ce dispositif.